histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous mensuel avec les médiatrices du service éducatif des archives départementales du Tarn. Bonjour, Aude Michaud.
Bonjour.
Bonjour, Stéphanie Corso.
Bonjour.
Alors, en cette année 2014, consacrée à la commémoration de la guerre de 1914-1918, vous avez évoqué, dans une précédente émission, la correspondance d'un soldat avec sa famille et, en particulier, avec son épouse. Mais que sait-on de la vie de ces femmes restées au foyer quand leur mari, leur fils ou leur frère a été mobilisé pour partir à la guerre ?
Les femmes ont eu un rôle essentiel durant la Grande Guerre. D'abord, dans la sphère privée, avec la correspondance qu'elles entretenaient assidûment avec leurs proches partis au front, mais aussi dans la sphère publique, avec leur engagement pour venir en aide aux soldats, aux réfugiés et aux personnes les plus démunies. Ce sont elles encore, qui pendant le conflit, ont dû en partie remplacer les bras des hommes mobilisés dans les champs et dans les usines. Ce sont ces différents aspects que nous allons explorer grâce à des documents d'archives conservés aux archives départementales du Tarn. Lors de nos deux dernières émissions, nous vous avions proposé un regard sur ce conflit à travers la correspondance d'un poilu, Louis Callas. La correspondance des soldats a beaucoup été étudiée car elle apporte un témoignage essentiel sur les conditions dans lesquelles ils ont vécu cette guerre. Celle des épouses est moins accessible, nous l'avons vu. Les soldats détruisaient leurs courriers pour ne pas ajouter de charges supplémentaires à leur barda qui était déjà très lourd. Ces femmes ont reçu ces lettres, mais elles en ont écrit aussi. La correspondance tient une place essentielle pour les individus, et ce, dès les premiers mois de la guerre, qui marquent la séparation physique des couples.
Le 8 octobre 1914. Chère Marguerite, je suis toujours sans nouvelles. Voilà un mois que les lettres n'arrivent plus. J'ignore si tu reçois les miennes. Que faites-vous? Je l'ignore et attends chaque jour impatiemment une lettre. À part cela, ma santé est bonne. Ne cesse pas de m'écrire, je finirai bien par recevoir quelque chose. Bien le bonjour chez toi. Que fait Suzanne? Je vous embrasse, Louis.
L'écriture, l'attente, la lecture des lettres rythment les journées, celles des soldats, comme Louis Callas, parti au front, mais aussi celles de leur épouse, qui pour certaines ont dû revenir chez leurs parents pour faire face à la misère qui s'installe. L'attente de la lettre remplit donc le temps de la séparation. Ce lien épistolaire qui vient sceller la relation entre les époux repose néanmoins sur trois exigences, la régularité, la réciprocité et la sincérité. Ces attentes sont fortes. Comme en témoigne cette carte de Louis Callas.
21 février 1915. Je profite d'un moment de repos pour te donner de mes nouvelles. Comme d'habitude, je vais bien. Depuis quelques jours, il fait un temps doux et pluvieux. Dorénavant, je ne t'écrirai que lorsque j'aurai reçu une lettre de toi. Pas avant.
Et lorsque ces attentes sont déçues, cela peut générer tension et suspicion.
Alors, vous aviez évoqué ces tensions, ces suspicions dans une correspondance. Rappelez-nous laquelle ?
Il s'agissait d'une carte datée du 25 août 1917.
« Chère Marguerite, pas de lettre. Tu n'as pas le temps d'écrire. À la fin du mois, je ne t'écrirai qu'une seule fois par mois pour te dire si je suis mort ou vivant. Si mes cartes ou lettres sont presque indifférentes, ce sera une corvée de moins pour toi à répondre, à moins que ce ne soit négligence ou paresse. Pas mort encore, ni même en vie. Mes meilleures caresses à Suzanne. Un baiser pour toi, Louis. Bien le bonjour chez toi. »
Ces lettres incarnent la relation du couple durant la séparation. Elles sont empreintes d'affectivité, de sentiments. Elles offrent aussi à ces soldats une part d'humanité dans l'univers brutal et bestial dans lequel ils baignent quotidiennement. Bien que privée, cette correspondance est sensible et fait l'objet d'une surveillance accrue durant toute la durée du conflit. Ces lettres doivent contribuer à soutenir le moral des populations à l'arrière et des soldats au front. Elles doivent encourager l'élan patriotique de tous, en aucun cas le remettre en cause. Bien que la censure soit effective, des femmes brandissent leurs lettres comme des menaces auprès des autorités.
Alors là, vous nous proposez une lettre de femme de l'abbatie Saint-Georges dans le Tarn.
Lavore, le 5 avril 1915. Monsieur, ici dans cette commune de l'abbatie Saint-Georges, nous avons quelqu'un, Ségur, de la commune qui se moque de nous, pauvres femmes qui avons nos hommes sur le front depuis quelques mois. Si nous nous trompons, monsieur le préfet, vous n'avez qu'à le faire surveiller par la gendarmerie de Lavore. Vous verrez si nous nous trompons. Il a été réformé pour être boiteux, et il est boiteux comme mes talons. Si ce Ségur n'est pas parti avant peu de jours, nous allons écrire à nos hommes qu'ils se révoltent, qu'ils sont sur le front. »
Mais les épouses, les mères, les sœurs ne sont pas restées à attendre leur homme. Elles ont pris une part active dans les événements, certaines par choix, comme en témoigne cet article paru dès les premiers jours de mobilisation, le 2 août 1914, dans le journal de Grouillé et intitulé « Le patriotisme féministe ».
Nous apprenons de sources officielles que plusieurs jeunes filles, devant le danger menaçant la patrie, viennent de se faire inscrire au commissariat de police pour partir comme infirmières. Nous les félicitons de leur beau geste qui montre à quel degré de patriotisme est porté à Grouillé, où tous les cœurs sont des cœurs vraiment français.
D'autres femmes se sont engagées par nécessité, car la guerre désorganise tout, les familles, la société, l'économie.
Alors que les femmes avant la guerre sont, telles des enfants, soumises à l'autorité des hommes, d'abord leur père, puis ensuite leur mari, lorsque la guerre survient, elles se doivent d'assumer, mais assumer de quelle façon ?
Elles doivent assumer leur subsistance, et celle de leurs enfants en premier lieu, mais aussi celle des soldats et de la nation tout entière. C'est le sens de cet appel solennel lancé aux femmes françaises par le président du Conseil des ministres, René Viviani, paru dans le Démocrate du Tarn le 11 août 1914.
La guerre a été déclarée par l'Allemagne, malgré les efforts de la France, de la Russie, de l'Angleterre pour maintenir la paix. À l'appel de la patrie, vos pères, vos fils et vos maris se sont levés, et dès demain, ils auront relevé le défi. Le départ pour l'armée de tous ceux qui peuvent porter les armes laisse les travaux des champs interrompus. La moisson est inachevée, le temps des vendanges est proche. Au nom du gouvernement de la République, au nom de la nation tout entière groupée derrière lui, je fais appel à votre vaillance, à celle des enfants, que leur âge seul et non leur courage dérobe au combat. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine. Vous ne pouvez pas rendre à la patrie un plus grand service. Ce n'est pas pour vous, c'est pour elle que je m'adresse à votre cœur. Il faut sauvegarder votre subsistance, l'approvisionnement des populations urbaines et surtout l'approvisionnement de ceux qui défendent à la frontière avec l'indépendance du pays, la civilisation et le droit. Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont partis sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout, à l'action, au labeur, il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Vive la République, vive la France.
Les femmes vont en effet prendre le relais de leurs maris dans les champs, mais à la situation difficile à laquelle elles sont confrontées s'ajoutent parfois de vieilles querelles de voisinage.
Alors c'est ainsi que vous avez trouvé dans les archives judiciaires un témoignage, lequel ?
C'est un témoignage de l'implication des femmes dans les travaux agricoles. En effet, le 2 octobre 1914, la brigade de gendarmerie de Saint-Sulpice dresse un procès-verbal constatant
des menaces de mort à l'aide d'une arme à feu par Madame Massiot Hermine, épouse Malrieux, 26 ans, métayère à Saint-Sulpice dans le Tarn, sur Madame Banquet Antoine, épouse Barreau, 30 ans, maître Valette, Audilieu.
Vous aurez noté la féminisation de termes généralement employés au masculin. Parle de métayère, maître Valette. Mais poursuivons et laissons Madame Massiot nous expliquer sa version des faits.
Le 30 septembre courant, ayant dépiqué du trèfle sur mon aire avec la machine de Monsieur Reynaud, hier, 1er octobre courant, vers 7 heures, celui-ci me dit qu'il allait envoyer prendre la dite machine par les femmes d'Arles et Barreau. Je lui ai répondu qu'étant fâchée avec cette dernière, je ne voulais absolument pas qu'elle vienne chez moi et que j'irai aider la femme d'Arles à conduire la machine chez elle. Vers 9h30, la femme Barreau étant arrivée avec la femme d'Arles et Pradel et étant entrée sur mon aire sans mon autorisation, j'ai dit en m'adressant à Madame Barreau « Mon aire est bien grande, mais il n'y a pas de place pour toi. » Elle m'a répondu « Dis donc, chameau, fumier, pourri, tu ne m'empêcheras pas de venir ici. Viens sur la route, je me charge de t'aligner. » En disant ces paroles, elle brandissait une aiguillade qu'elle avait prise des mains de Pradel. Sur ces menaces, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le fusil qui se trouvait chargé, et je l'ai armé, et suis ressortie devant ma maison, à deux pas de la porte. La femme Barreau, se trouvant encore sur l'aire et près de l'auge, je lui ai dit en la mettant en joue, « Va-t'en de chez moi ou je te tire dessus. » À ce moment, M. Fourès est intervenu et m'a désarmé. j'aurais certainement tiré sans son intervention. Je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Je recommencerai si cette femme revient chez moi. »
Le procès-verbal consigne les dépositions de tous les témoins, mais aussi les renseignements recueillis auprès de M. Pouche Justin, 53 ans, conseiller municipal de la commune de Saint-Sulpice et voisin des parties en cause.
Il résulte que Mme Banquet, Antoinette, épouse Barreau, est de bonne moralité et sa conduite est irréprochable. Par contre, Mme Massiot, épouse Malrieux, est une femme de mœurs légères. Depuis le départ de son mari mobilisé, elle mène une vie irrégulière. Elle est en outre querelleuse.
La peine est prononcée quelques jours après.
6 mois avec sursis.
Les femmes sont dans les champs à Saint-Sulpice et dans les vignes dans le Gaillacois. Et là, il n'est plus question de mauvaises mœurs.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Là, on relève des maladresses commises par les femmes dans la gestion des exploitations viticoles. Ainsi, dans une note du 17 février 1915 adressée au préfet, le ministre des Finances souligne
« Les préfets de divers départements ont signalé récemment qu'à la suite de la mobilisation générale, de nombreuses personnes, le plus souvent des femmes, chargées en l'absence des viticulteurs d'assurer l'exploitation des vignobles, ont omis, par ignorance ou inexpérience, de faire la déclaration de la récolte de 1914 dans le délai fixé. »
Viviani appelait les femmes et les enfants à se mobiliser pour poursuivre les travaux des champs. Mais pour certaines, la situation est si pénible qu'elles ne peuvent les garder près d'elles et finissent par les confier à l'hospice. Il y a aussi celles qui préfèrent travailler en usine, où les conditions de travail peuvent être plus difficiles que dans les champs, mais les salaires un peu plus élevés. Une femme de Brassac, inquiète de cette tendance, s'en réfère directement au préfet.
Brassac, le 12 novembre 1916. Monsieur le préfet, je viens m'entretenir un instant avec vous pour vous raconter toutes les injustices qui se passent. Monsieur Dubernard, du moulin Paradou, a monté une usine et une filature. Le gouvernement lui tient du travail. Un homme qui a toujours lutté contre la République et aujourd'hui la République fait sa fortune. Et c'est un homme qui ruine le pays. Il prend toutes les ouvrières de la campagne. Tout le monde abandonne les terres pour aller travailler chez lui. Il les paye à des prix énormes. Il y a la moitié des pommes de terre à arracher. Toutes les récoltes sont à ensemencer. Je me demande que mangera le peuple l'année prochaine. J'espère que monsieur le préfet agira auprès du gouvernement pour intervenir auprès du fabricant de la ville, qu'il ne puisse plus prendre les ouvrières de la campagne, au moins la durée de la guerre, afin de pouvoir travailler la terre pour faire de la viande, pour faire vivre le peuple. Il faut plus que de l'argent. Ici, à Brassac, il ne se trouve pas une fille pour domestique. Je me demande ce que deviendra la France. Ensuite, on crie contre la vie chère. J'espère que monsieur le préfet sera assez bon et qu'il mettra un terme à tout ça.
Alors, vous avez parlé d'usines, de femmes qui travaillent en usine. Est-ce que les femmes étaient déjà présentes au sein des usines avant la guerre ?
Oui, bien sûr, dans les filatures, mais aussi dans les usines métallurgiques. Et par exemple, en août 1914, elles représentent 7 à 10% de la main-d'œuvre au sein de ces usines métallurgiques. Dans l'usine de guerre du Sault du Tarn, qui fabriquait des obus pour l'armée, les femmes représentaient 12% en 1916. Et c'est un rapport du commissaire spécial, daté du 4 août 1916, qui nous donne le détail.
Les établissements du Sault du Tarn répartissent dans leurs diverses exploitations 3455 ouvriers, dont 2140 mobilisés, 777 non mobilisés, 427 femmes et 111 apprentis.
Ce rapport fait suite à un mouvement de grève au sein de l'usine.
22 ouvriers de 13 à 17 ans occupés comme chauffeurs de four de marteau à Forges-les-Limes aux usines du Sault du Tarn à Saint-Jury ont abandonné le travail. Ils demandent une augmentation de salaire de 25 centimes par jour. 15 jeunes ouvriers de 13 à 17 ans, également occupés aux ateliers des faux et des outils, ont, suivant le mouvement de leurs camarades chauffeurs, demandé une augmentation de salaire de 25 centimes par jour.
Le mouvement de contestation est très surveillé car l'on craint la contagion.
Il résulte d'une enquête que ces jeunes ouvriers sont engagés dans ce mouvement gréviste par leurs parents et par des ouvriers mobilisés aux établissements de la guerre et empêchés ainsi de faire grève. Ils l'ont d'ailleurs laissé entendre et il est possible que pour ces mêmes raisons, le mouvement gagne certaines catégories de non mobilisés et les ateliers des femmes, même celles qui travaillent à la fabrication des obus.
Alors, ces mouvements de grève vont croître peu à peu, mais dans quel domaine ?
Alors, ces mouvements de contestation vont toucher toute la population. L'année 1917 est marquée d'ailleurs par ces mouvements de contestation qui s'expriment tant sur le front qu'à l'arrière. Sur le front, certains soldats, épuisés par plus de 3 années de combat, refusent de sortir des tranchées. En écho à ces mutineries, la population, épuisée elle aussi par le contexte de guerre marqué par les réquisitions et le rationnement, s'exprime par des grèves et des manifestations. Dans ce contexte, des syndicats sont créés, comme à la verrerie de Carmaux ou au Sceau du Tarn. Le droit syndical des femmes est encore limité, il faut en effet attendre 1920 pour qu'une femme puisse adhérer à un syndicat sans l'autorisation de son mari. Ce sont donc les hommes qui organisent ces mouvements. Un rapport, daté du 19 février 1917, relatif à la propagande syndicaliste dans les usines de la guerre, informe le préfet du Tarn
que le syndicat a été créé au Sceau du Tarn il y a environ 18 mois par des mobilisés venus de toute la France. Il est donc à peu près certain que cette organisation, importante cependant, disparaîtra après les hostilités, car elle n'est formée que d'éléments étrangers au département du Tarn et à l'usine, où ils n'ont été appelés que provisoirement.
Ce même courrier nous apprend que sur les 800 ouvriers occupés à l'usine d'Albi, 500 ouvriers, syndiqués et non syndiqués, ont assisté les jours précédents à une réunion générale des membres du syndicat des métallurgistes d'Albi, parmi lesquels figuraient une 60aine de femmes. Alors que les revendications sur les salaires se font de plus en plus pressantes et que les réunions syndicales se multiplient, dans un autre rapport relatif aux revendications des métallurgistes, daté celui-ci du 25 juin 1917, le même commissaire spécial relève la présence de 100 femmes à une de ces réunions. Par ailleurs, si le rapport mentionne dans les observations accompagnant l'accord signé entre les délégués syndicaux et la direction des usines sur les salaires,
qu'à travail égal, le même tarif aux pièces sera applicable aux hommes et aux femmes,
faisant écho ainsi à une revendication des femmes à travail égal, salaire égal, l'étude des bordereaux des salaires montre qu'il n'y a pas véritablement d'égalité de traitement, seul le tarif aux pièces étant concerné.
Alors là, vous avez relevé une information importante dans le rapport du commissaire spécial.
C'est-à-dire que dans ce rapport, il est fait référence à une troisième réunion.
La troisième réunion qui avait été organisée par les femmes ouvrières des usines du Sceau du Tarn avait réuni peu d'assistants, une 60aine environ. Elle avait pour but de créer une garderie d'enfants. Une délégation a été nommée à cet effet.
Cette garderie d'enfants est à rapprocher des mesures prises à l'échelle nationale afin de permettre aux femmes de travailler tout en dispensant les soins nécessaires à leurs enfants. Est-il nécessaire de souligner que les enfants, dans ce contexte de guerre, sont précieux? Ainsi, après une première circulaire préconisant l'installation de chambres d'allaitement et de crèches dans les usines de guerre, la loi du 5 août 1917 les rend obligatoires dans les entreprises employant plus de 100 femmes.
Alors comment appelait-on ces femmes employées dans les usines pour l'armée?
On les appelait les munitionnettes et elles ont marqué la mémoire collective.
Alors, nous allons faire là une pause musicale avec Jean Ferrat qui nous chante « Mamom ».
Mamom, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines. Elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine quelque part en Lorraine, puis c'est loin. Mais maman, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville est sans sommeil, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour des magazines. Elle travaille en usine à Créteil.
Vous vous êtes bien sur Radio Albigès dans cette émission Histoire locale. Aude Michaud et Stéphanie Corso du service éducatif des archives départementales du Tarn évoquent pour nous aujourd'hui les femmes dans la guerre de 1914-1918. Alors tout à l'heure vous nous avez parlé des munitionnettes du Sceau du Tarn. Donc, après nous être intéressés à ces munitionnettes, vous allez évoquer...
Alors, nous vous proposons d'ouvrir l'illustration du 29 avril 1916, l'illustration étant un journal, pour découvrir un aspect moins connu du travail des femmes durant cette grande guerre.
Après les usines, après les services de l'intendance, voici que les casernes s'ouvrent au travail des femmes. Dès l'année dernière, alors qu'il s'agissait de fournir dans toute la France un travail intensif pour la défense nationale, l'autorité militaire avait fait appel en grand nombre aux ouvrières. On les voyait dans les manutentions, dans les ateliers d'habillement, de désinfection de vêtements, bref, là où elles pouvaient remplacer des bras mieux utilisés ailleurs. Mais c'est au début de l'année 1916 que les veuves, les filles ou les sœurs de nos braves poilus ont fait leur entrée officielle dans nos casernes de l'arrière et dans les bureaux de l'intendance, état-major, etc. Les unes ont commencé à remplacer un peu partout les hommes du service armé qui faisaient fonction de secrétaire. Et sous la direction masculine, elles remplissaient leurs nouvelles tâches à la satisfaction de leurs supérieurs. D'autres, travaillant dans les ateliers de tailleurs des casernes. D'autres enfin, et à juste titre, ont envahi les cuisines. Partout on s'est efforcé de les installer aussi confortablement que possible, dans les locaux simplement blanchis à la chaux de nos casernes. Vaillamment, nos Françaises apportent dans le sérieux de leur présente un peu de la douceur de la femme, et nos soldats, bien loin de trouver leur présence importune, les respectent et les aident de leur mieux.
Cette douceur de la femme nous amène à évoquer un autre aspect, et une des images les plus répandues pendant cette guerre, celle de l'ange blanc, qui figure sur de nombreuses cartes postales et représentations de l'époque. Ces anges ne sont autres que les infirmières qui, dans une attitude toujours très maternelle, soignent, rassurent et aident à mourir. L'illustration dans son édition du 12 août 1916 leur rend hommage.
Le costume de la Croix-Rouge, d'aspect quelque peu monacal, paraît communiquer à celles qui l'ont vêtue la fièvre de dévouement et l'ardeur charitable des bonnes sœurs à qui il les fait ressembler. L'influence de l'uniforme a toujours eu une grande part dans les vocations religieuses et militaires. Le voile blanc ne laisse pas d'être forcéant et se prête à de petits arrangements auxquels la mode n'est pas étrangère. Les jeunes filles le portent serré sur les sourcils et cachant les oreilles, comme un bandeau de religieuses, tandis que les dames d'âge plus raisonnable dégagent largement leur front. Ce voile, s'il encadre coquettement beaucoup de jeunes et jolies têtes souriantes, accentue aussi l'air de douceur et de bonté que certains visages graves, dont les cheveux blancs ou gris, donnent à sa blancheur une belle réplique. Toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles se donnent du mal gaiement et gentiment. Elles rivalisent de bonne humeur dans l'accomplissement de leurs tâches, souvent pénibles. Elles offrent aux plus frustres des poilus un quart de jus ou un paquet de tabac, avec autant de bonne grâce qu'elles servent une tasse de thé dans leur salon, et nos soldats leur en savent gré.
Les dames de la Société de Charité Maternelle de Mazamé œuvraient-elles toutes de blanc vêtues? Si elles n'en avaient pas l'habit, nul doute, à la lecture du rapport moral de l'œuvre de l'année 1917, qu'elles avaient la vocation de ces anges.
Malgré la continuation et l'aggravation de la terrible épreuve que nous subissons depuis 4 ans, vous ne vous êtes pas découragés. Vous avez, dans votre sphère, fait face aux multiples devoirs qui se sont imposés à vous, et vous n'avez pas oublié notre vieille association qui, depuis si longtemps, rend de très grands services à notre nombreuse population ouvrière. Vous vous êtes groupés autour de nous pour nous aider, avec nos faibles ressources, à faire le plus de bien possible, et grâce à votre ingéniosité, nous sommes arrivés à faire beaucoup avec peu de ressources. En dehors des secours matériels que nous vous avons distribués, nous nous sommes efforcés de relever le moral très abattu de beaucoup de familles éprouvées, et dans la plupart des cas, nous y avons réussi. Depuis que nous avons un groupe assez important de mobilisés cantonnés chez nous, vous vous êtes multipliés pour rendre à ces braves soldats le séjour parmi nous aussi agréable que possible. Vous les avez soignés, comme vous souhaitez que soient soignés les êtres qui vous sont chers, et qui sont partis pour la défense de la patrie envahie. Dans nos ouvroirs, nos ambulances, notre foyer du soldat, partout vous avez largement payé de votre personne. Les hommes courant à la frontière pour arrêter l'envahisseur, vous vous êtes mobilisé hardiment pour tous les services de l'arrière. Nous vous félicitons de votre entrain, de votre dévouement, que nous aurons à tenir longuement, car nous aurons beaucoup de plaies quand sera finie notre longue épreuve et votre concours sera de plus en plus nécessaire. Envoyons, en terminant ce compte rendu, notre salut affectueux à nos chers absents et l'assurance de toute notre sympathie aux familles éprouvées. Mazamé, le 5 mars 1918.
Alors on peut se poser la question, la Première Guerre mondiale a-t-elle joué un rôle dans l'émancipation des femmes? Qu'est-ce que vous en pensez à la lecture de ces textes d'archives?
Si elle a eu un impact sur certains aspects de la vie quotidienne, on peut le voir à travers certains dessins ou photos sur la mode vestimentaire, sur l'accès facilité à certains secteurs comme le tertiaire, à certains métiers, par exemple dans l'enseignement, l'impact réel reste difficile à évaluer. Il semble toutefois qu'à la démobilisation, la Chambre des députés, très conservatrice et formée pour moitié d'anciens combattants, a veillé à ce que chacun des sexes reprenne son rôle d'avant-guerre dans la société. Rien de tel que l'allocution de son Excellence, M. Jules Seurat, ambassadeur de France, lors de l'Assemblée générale de la Société française de secours aux blessés militaires, qui s'est tenue le 29 mai 1927, soit presque 10 ans après la Grande Guerre, pour nous expliquer quel est alors celui des femmes.
À vous, mesdames, qui jouez dans la Croix-Rouge un rôle si éclatant, qui montrez tant de courage, qui faites tant de bien, qui pendant la guerre n'avez eu peur ni de la maladie, ni des balles, reviendra le rôle principal. Nulle main telle que la vôtre pour soigner, nul cœur tel que le vôtre pour rendre l'espoir et endormir la souffrance. Toute femme née avec un cœur de mère. Je remarquai l'autre jour, en traversant les Tuileries, une petite fille de 5 ou 6 ans. Qui s'appliquait à bien installer sa poupée dans une voiture à poupée. Elle releva la capote et dit à sa mère « Je crois bien que comme ça, elle sera à l'abri du vent. Je suis sûre que plus tard, cette petite élèvera de bon cœur, de bons Français, pour la bonne France. Et vous, ses aînés, vous faites de même. »
À l'heure de la reconstruction et du repeuplement du pays, les femmes étaient remisées au foyer.
Et 100 ans après, il est encore difficile de changer cette image dans l'esprit de beaucoup d'hommes en France et dans le monde. Merci Stéphanie Corso, merci Aude Michaud. Je rappelle que vous êtes médiatrice au sein du service éducatif des archives départementales du Tarn et que vous venez à ce micro chaque mois pour évoquer un sujet d'étude de votre service. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir à tous et à bientôt sur les ondes de Radio Albigès. Histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés.